Cherchons, c'est l'émission de Joël. Bonjour les amis.
Après le diesel et la pollution, j'ai eu envie que l'on se fasse un peu de bien avec les plantes. Et je suis allée interviewer Vicky dans son bureau de la Pensée Sauvage afin qu'elle nous parle des plantes médicinales. Certains la connaissent déjà, c'est une femme passionnée, engagée, mais je vous laisse écouter. Bonjour Vicky, eh bien donc aujourd'hui tu me reçois dans ton bureau. Dans ton bureau, ouais. Il y a des plantes, il y a des herbes, ça sent même les plantes, il y a des livres partout sur la médecine par les plantes, les plantes, toutes sortes de plantes, la médecine tibétaine. Enfin, c'est un endroit très 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 chargé et donc c'est une passion les plantes.
Ouais, c'est une passion depuis toute petite, les plantes et les animaux. Et les choses et les rencontres ont fait que, voilà, je suis plus spécialisée dans les plantes. Mais bon, les animaux me tiennent toujours à cœur. Mais c'est vrai que là, dans mon bureau, c'est mon havre de paix. C'est là où je suis tranquille avec plein de savoir dans les livres, plein de recherches. Et puis en même temps, comme tu dis, le parfum des plantes, parce que le biotope est juste à côté et ça parfume tout le bâtiment.
Oui. Alors comment tu as commencé? Qu'est-ce que tu as fait? Comment c'est venu tout ça?
Bah, les plantes, j'ai vécu avec depuis toute petite parce que mon grand-père était forestier, mon père ingénieur agronome, donc il m'amenait dans les fermes. Mais ensuite, quand je suis arrivée en France, j'ai rencontré des gens, notamment ici à Soudan, qui s'occupaient beaucoup de plantes médicinales. Et donc, je me suis intégrée dans une filière en naissance. Il y avait la Pensée Sauvage qui existait depuis 6 mois. Et en fait, après, une fois que je l'avais intégrée, on a obtenu des financements par le ministère de la Culture, Mission du Patrimoine. Et donc, on a fait des recherches ethnobotaniques. Et c'est à partir de là que ma destinée, elle s'est dessinée de plus en plus fortement vers ça. Et les recherches ethno m'ont permis de découvrir aussi des cévenoles, parce que moi je suis d'origine frisonne, donc néerlandaise. Et j'ai commencé à aimer autant les cévenoles que la végétation, que les pays avec ses... C'est haut et c'est bas, c'est vent fort, c'est froid et c'est chaleur intense. Et voilà, donc je me suis enracinée ici.
Enracinée, on est toujours dans l'herbe et dans les plantes et dans les racines.
Ouais.
Et alors ces plantes, ce sont des plantes médicinales, bien que je crois que ça ne se dit plus, hein, ou ça ne se dit pas. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous dire un petit peu la difficulté qu'il y a?
Pour moi, ce sont des plantes médicinales. Mais pour tout ce qui concerne la législation, nous sommes obligés de parler que d'alimentaire ou d'aromate, ce qui spolie notre métier. Mais pour moi, ce sont des médicinales parce qu'elles soignent, parce qu'elles permettent de rester en forme, de prévenir, afin de ne pas avoir à trop guérir. Ce qui est déjà fabuleux, mais c'est vrai que toutes les plantes, en tout cas, qui sont vendues par Biotope, sont alimentaires. Et ça a été comme ça depuis le début. Mais on a quand même été attaqué par la répression des fraudes, donc ça nous a pris toute notre énergie de 2001 à 2007. On a été condamné en 2006, libéré en appel en 2007. C'était en même temps que commençaient les ennuis de Cocopelli.
Ouais.
Mais notre avocate avait décidé qu'il fallait rester tranquille par rapport à ça, de manière à gagner au premier coup, ce qui n'a pas été le cas. Et donc on avait été attaqué sur trois lois. Et en fait, donc finalement, heureusement qu'on a toujours respecté... la législation, en évitant de dire à quoi servent les plantes sur les sachets, en tout cas. Et c'est vrai que moi, je dis toujours à tous les producteurs que j'accompagne que nous ne sommes pas médecins. On ne peut pas faire de diagnostic. On peut juste dire à quoi servent les plantes.
D'accord. Mais ces plantes, en fait, elles soignent, mais ça, on sait qu'elles soignent depuis très très longtemps, depuis nos grands-parents, les tisanes, tout ça. Comment? Donc, comment ça se passe maintenant, alors qu'elles ont des vertus? Ce que tu vends, par exemple, et ce que tu fais, hein, ce que tu fais pousser, ça a des vertus de toute façon médicinales. Il ne faut pas non plus en prendre trop. Donc, comment ça se passe avec ce côté, que ça, c'est malgré tout du soin, et il ne faut, c'est pas considéré comme du soin.
Oui, mais en même temps, il y a plein d'aliments comme ça qui sont qui relèvent du soin, comme le riz, quand on a les intestins qui fonctionnent trop bien, comme dirait Coluche, ou le café quand on est fatigué, ou le thé. Il y a plein d'aliments comme ça et qui sont totalement libres. Le vin est totalement libre, avec toutes les conséquences désastreuses que ça peut avoir. Et quand on, nous, quand on vendait une tisane de prêle, de framboisier, d'aquilée, ou de soucis, ou de bleuet, où là, on était, on aurait voulu nous mettre en prison, quoi. Donc, oui, les plantes soignent, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de le dire. Et là, c'est une chose assez complexe qui est mise en place depuis un certain temps. Ça a commencé dans les années 1800 et ça a été conforté encore avec Pétain, qui a aboli le diplôme d'herboriste. Et il y a tout ce monopole de la pharmacopée qui souhaite avoir la même mise sur tout ce qui est plantes médicinales. Et notre combat, en fait, est tout simple. Moi, je voudrais qu'on arrive, comme au début du siècle dernier, à enseigner à nouveau les plantes médicinales au niveau de l'école. C'est-à-dire, quand je parle de plantes médicinales, ce n'est pas la belladone ou la datura. Ce sont des plantes toutes simples, comme la mélisse, la menthe, le romarin, le thym, qu'on côtoie tous les jours, qu'on utilise comme aromate, et que les enfants puissent comprendre un peu pourquoi ces plantes fonctionnent de cette manière-là et à quel moment on peut les prendre et quelles sont leurs vertus bienfaisantes. C'est un savoir qui appartient au savoir populaire. C'est un patrimoine de l'humanité, pour moi, encore plus peut-être qu'un bâtiment, puisque c'est quelque chose qui relève du savoir, et le savoir doit rester vivant. Et en fait, depuis les années 1800, on a tout fait pour que la population oublie. Et après, on dit, ah, mais plus personne ne sait, donc ce n'est pas un savoir pertinent. Mais non, c'est un savoir doit se transmettre, un savoir doit se vivre, un savoir doit s'adapter. Et c'est le même type de combat que Cocopelli avec ses semences qui doivent continuer à être semées, à pousser, à s'adapter à l'environnement. Les savoirs populaires doivent aussi continuer à s'adapter aux petits bobos du quotidien qui forcément changent aussi avec le climat, changent avec la façon dont on mange, changent avec tout ça. Et tout ce savoir, voilà, est confisqué, et on s'en offusque lorsque ça se passe dans des pays tiers où on pille les savoirs ethnobotaniques. Mais ici, c'est fait depuis longtemps. Et moi, je m'insurge contre ça. Et c'est vrai que là, ça fait 30 ans qu'on se bat, et les choses deviennent de plus en plus compliquées. Maintenant, quand je veux vendre un mélange de plantes en sachet, nous qui avons vendu toujours que des plantes en bio, eh bien, on est obligé de mettre un astérisk là, après chaque plante, et de faire un renvoi pour dire que c'est issu de l'agriculture biologique. Ça veut dire que sur une toute petite étiquette, il y a une ribambelle d'informations qu'il faut mettre, le consommateur ne va plus rien comprendre, et tout ça parce qu'il y a des gens qui ne font pas du 100% bio. Et c'est... Tout est comme ça. Toute la législation est compliquée. On a des produits cosmétiques tout simples, comme l'huile d'arnica, l'huile de millepertuis, qui sont des produits tout à fait traditionnels, qui existent de manière séculaire. Et là, on est obligé de faire des dossiers, là, en 2013. Là, on était au point, on avait tout fait comme il faut. Et c'est des usines à gaz, et ben, on peut se demander si ce n'est pas une autre manière de d'évincer toutes les petites entreprises, toutes les initiatives de gens qui ont simplement envie de vivre localement, de produits qui sont naturels et dont l'innocuité a été prouvée depuis des siècles. Et voilà.
Mais en même temps, les gens suivent pas toutes ces directives, je veux dire... Tout le monde continue à boire des tisanes comme
Oui, ben c'est encore heureux, parce qu'il y a quand même encore des gens qui ont encore des connaissances. Il y a encore des personnes âgées qui ont des connaissances et qui ont eu la chance de pouvoir le transmettre à leurs enfants, qui n'a pas été le cas de tout le monde, parce qu'il y a aussi eu des enfants qui préféraient carrément la médecine moderne, avec tous les inconvénients qu'on a pu observer après. Et il y a des gens qui ont été blessés, offusqués par la vache folle, toutes ces façons de traiter les animaux avec des hormones, de salir la terre avec des pesticides, des OGM et tout ce qui s'ensuit, hein, la liste est trop longue, et qui, eux, ont envie de revenir à une vie un peu plus normale, un peu plus en harmonie avec la nature. Et là, c'est sûr que les tisanes apportent un bien-être. En plus, on a quand même dépoussiéré tout. Il y a des mélanges qui sont jolis, il y a des mélanges qui sont bons à boire. Et puis, c'est plus un produit de grand-mère. C'est devenu quelque chose d'usage quand même assez courant.
Eh bien, justement, on va écouter une petite publicité à l'époque où, n'est-ce pas, on pouvait faire de la réclame pour les tisanes.
Fais voir. Qu'est-ce que c'est que ce ticket ?
Un ticket de pesée.
Oh, mais dis donc, tu as encore pris un kilo ?
Oh, ce n'est pas bien grave. Je vais faire une petite cure de boldoflorine et Maline reviendra.
Une cure de boldoflorine ? Cette même boldoflorine qui m'a fait tant de bien lors de ma crise de foie ?
Mais oui, rien ne vaut la boldoflorine. Une tasse de boldoflorine après le repas soulage le foie, élimine les graisses.
Ça, c'est vrai.
Et tu sais qu'un foie en bon état signifie une digestion facile et une bonne santé.
Et puis, c'est très agréable à boire, la boldoflorine.
Pense donc à m'en acheter. Votre pharmacien vend la boldoflorine.
La boldoflorine, la bonne tisane pour le foie.
La boldoflorine, la boldoflorine, la bonne tisane pour le foie. Une tasse de boldoflorine après les repas soulage le foie et rafraîchit l'intestin. Votre pharmacien vend la boldoflorine.
Oui, tu m'as parlé des tisanes, mais également il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et puis je suppose que vous êtes de nombreux producteurs, il n'y a pas que toi. Enfin, comment
ouais,
ça se passe
ouais. Ben, au niveau de Biotop, on est une bonne quinzaine et il y en a plusieurs qui vont rentrer bientôt. Que je suis pour les mettre en selle, en fait. Oui, donc une quinzaine, on n'est pas tous ici, hein. Il y a des producteurs en Haute-Loire, il y a un producteur en Corse, il y a des producteurs en montagne, quoi, surtout. Et quand on a commencé avec la pensée sauvage, donc on a fait des recherches au niveau de la culture, donc ça c'était en 78, et en 82, on a créé un syndicat ici à La Salle, qui est le syndicat simple, et qui est là pour défendre les petits producteurs en montagne. Et ce syndicat a un cahier des charges auquel j'ai participé en 85. Donc quand on a créé Biotop, on avait besoin de ça. Et c'est un cahier des charges qui est pas basé sur des interdits, mais plus sur des suggestions et sur des règles de conduite, du séchoir, de la cueillette, de la culture, enfin toutes les techniques nécessaires. Et en plus, moi, en 91, j'écris le premier livre sur la culture des plantes médicinales en bio, parce qu'on avait ma gamine qui était en chimie. Et donc, ça manquait cruellement. Là, j'en suis à ma troisième édition. Et puis, des petits guides. Donc ça, les éditions, c'est au niveau de la pensée sauvage. Ça me permet donc d'ouvrir, pas seulement les garder pour les biotopiens. Et puis, au niveau Biotop, Comme c'est une coopérative en autogestion, ce sont les producteurs qui décident du prix. Et on n'a pas d'apport total, contrairement aux autres coopératives, parce qu'on a toujours voulu que les producteurs soient confrontés au marché eux-mêmes, qu'ils puissent vendre en direct, pour que aussi les prix restent un peu concurrentiels au niveau du marché, sans vendre notre âme. Mais ça nous a permis quand même de faire des recherches pour limiter les coûts de production, tout en travaillant dans un certain confort, puisqu'on a relooké un peu les techniques par rapport à ce qui se passait avant. Donc on a une façon de travailler qui est plus pertinent et plus professionnel.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on a quand même des machines qui sont mieux adaptées. On a des sasseurs qui sont adaptés aux plantes. On a donc le séchoir solaire qui est adapté aux plantes. Et chaque producteur sèche chez lui. Et on a donc un producteur principal qui fait les huiles essentielles et qui a un alambic en inox, le Rolls Royce des alambics. Tout le monde essaie de copier son truc parce que c'est vraiment extraordinaire. Pour faire les huiles essentielles et les eaux florales. Et donc, au niveau de biotope, on vend donc les plantes séchées avec les mélanges qu'on fait dans la coopérative. En fait, les produits, les plantes arrivent prêts à être en sachet. Donc, c'est des sacs sur lesquels il y a toujours eu le code producteur. Maintenant, en plus, on est obligé de faire un code spécifique pour chaque sac. Et j'ai un cahier d'enregistrement pour les mélanges où je dois marquer chaque sac, le poids que je prends, et ce mélange à un autre code. Et voilà, tout ça, ça suit sur l'étiquette, donc je sais à chaque moment quelle plante est concernée par quel producteur. Voilà, et puis on a les eaux florales et tout ça, qui est en fait... C'est l'eau distillée qui a entraîné l'huile essentielle et qui a été refroidie. Et donc, c'est plein d'aromates. Et en fait, ça, pour moi, c'est un produit extraordinaire parce que c'est vraiment quelque chose de facile à utiliser. Tu imagines, tu vas travailler au bureau toute une journée, tu prends ton litre d'eau, tu mets un peu d'eau florale de cassis là-dedans, ça permet d'éliminer... de perdre un peu de poids qu'on prend en restant assis pendant des heures. Et puis ça rend l'eau beaucoup plus digeste, c'est facile d'emploi. Alors que bon, la tisane, c'est mieux d'être à plusieurs avec une théière en verre, tu vois, et tu vois les plantes qui flottent, et elles reprennent vie, c'est comme si elles reprennent vie. Donc c'est aussi l'art de d'utiliser les produits qui petit à petit, au fur et à mesure des 30 ans, tu vois, j'ai découvert plein de choses, quoi.
Tu n'utilises pas tout, c'est ça, c'est très particulier chaque utilisation.
Oui, pour moi, il y a des situations dans lesquelles on utilise. Il y a aussi des, je sais pas, pour les bébés, les eaux florales, c'est bien aussi dans le bain. On peut aussi faire des tisanes, mais c'est plus long. Donc chaque produit a ses avantages et sa place quelque part. Ouais.
Et oui. Et alors, comment tu es sûr que tous tes producteurs font un bon travail bio? Si tu me dis qu'il y en a en Corse, dans la Loire, loin tout ça.
Oui, c'est loin, mais c'est des gens que je connais depuis vingtaine, trentaine d'années, quoi. On est comme une grande famille, hein. Ça gueule, ça, en tout cas ceux qui sont restés, c'est à vie, quoi, l'amitié. Et donc là, les nouveaux qu'on intègre, il y a toujours un système de parrainage qui a eu depuis le début. Donc il y a toujours un référent, et en ce moment, moi je m'occupe des nouveaux d'ici. Donc je vais voir ce qu'ils ont comme terre, je regarde ce qui pousse naturellement, je sais ce dont Biotope a besoin, donc je peux les lancer sur certaines cultures. Et je leur dis toujours de commencer petit pour qu'ils apprennent eux-mêmes aussi à s'apprivoiser par rapport à la plante, parce que chaque plante est particulière, a des techniques spécifiques. Voilà, c'est une aventure, hein, vivre avec les plantes. Il faut être passionné.
C'est ça, c'est une passion.
Ah ouais. Ah, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, c'est pas simplement la plante. C'est pas comme cultiver le maïs, tu vois. Chaque plante a son caractère, chaque plante a son parfum. Et je me suis... rendu compte aussi que, au fur et à mesure de ces 30 ans, j'ai bougé par rapport aux plantes. Il y a des plantes dont j'ai besoin maintenant, avec lesquelles j'étais un peu mal à l'aise au début. Le calendula, par exemple, j'aimais pas. Ça pègue. Ça colle. Et en fait, maintenant, je la trouve tellement solaire. Puis, ouais, je la trouve extraordinaire, quoi. Bon, la pensée sauvage, elle m'a suivie depuis longtemps, hein, parce que ça, c'est vraiment, c'est la reine des visages. C'est extraordinaire. Comme petite fleur, c'est magnifique. Mais comme ça, oui, il y a eu plusieurs époques. Et j'ai l'impression aussi que les gens, il y a des moments où on a besoin de telle espèce. Et rien que quand les gens viennent ici et qu'ils sentent, je vois tout de suite, en fonction du visage qu'ils donnent, s'ils ont besoin de cette plante ou pas. Tu vois, si ça résonne quelque part dans le corps. Il y a des gens qui ne supportent pas la camomille, et quelques années après, ah, la camomille, ça, tout d'un coup, on voit le visage qui s'ouvre, quoi. Et donc, voilà, on sait qu'il y a un problème de foie, de digestion, et voilà. Donc, il faut une ouverture pour accepter les plantes aussi.
C'est ça, c'était...
Ouais, il faut être disponible.
Il y a le corps qui parle aussi.
Il y a le corps qui parle, il y a le visage qui parle, il y a le souvenir qui parle, il y a la société qui parle, la façon dont les gens ont utilisé. Quand j'ai travaillé au Maroc et en Palestine, c'est le rôle des femmes, le rôle des hommes. Ici aussi, c'était le rôle des hommes d'aller chercher les plantes de loin, les femmes les plantes de plus près. C'est pas juste, voilà, comme une salade. Et encore, il peut y avoir des salades extraordinaires, mais il y a justement ce savoir. Même s'il est enfoui, il est là. Il est là dans chacun d'entre nous. Et c'est vraiment rigolo, parce qu'il y a des gens qui arrivent aux plantes. Ouais, il y a une forme d'ouverture. Ça peut être toutes sortes de gens. L'autre jour, il y a un couple qui est venu, vraiment... Des gens, voilà, une personne assez âgée qui avait pu acheter sa voiture de sport avec une jeune femme avec des hyper hauts talons. Et je me suis dit, oula. Et en fait, ils sont arrivés et on a parlé plantes et on était tous au même niveau, quoi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que c'est pas avec tout qu'on arrive à ça. Et c'est vrai que je pense que la plante m'a aussi... Ouais... conforté dans cette ouverture vers l'autre, ce droit à la différence. Voilà, c'est un monde qui s'ouvre, hein, la plante. En plus, là, j'ai fait des recherches sur comment la plante fonctionne, comment un arbre, tu vois, arrive sur des pierres, comme ici, sur le granit, à capter l'eau, alors que c'est une chaleur pas possible. Il faut imaginer, hein, le nombre de litres dont un arbre a besoin. Et toute cette vie commune avec la microflore, avec les champignons, qui vivent en symbiose, mais c'est extraordinaire, quoi. Quand je pense qu'on est tous là en train de courir pour avoir des sous, alors qu'il y a quelque chose comme ça à découvrir, c'est le monde est fou, quoi. Ouais, c'est un monde extraordinaire.
C'est la nature, hein.
Oui, mais ça va au-delà, parce que
c'est presque quelque chose de sacré quand tu me parles.
Ouais, ouais.
C'est ça.
Ouais, et c'est pour ça que ça me fait trop, trop mal que ce soit spolié, que ce soit que les savoirs populaires, on n'ait pas le droit de dire à quoi sert une plante. C'est liberté, fraternité, égalité. C'est où ça? C'est où? Ça n'existe plus, quoi. Ça n'existe pas. Parce qu'on n'a pas le droit de dire à quoi sert une plante. Et c'est comme s'il y a tout un pan du savoir populaire, du savoir paysan, qu'on doit mettre aux oubliettes. Mais c'est qui dicte ça? Je veux dire, quelle est la personne qui peut m'empêcher, moi, de dire, voilà, à quoi sert la mélisse ou le thym? De quel droit? De quel droit?
Oui, parce que d'autant plus que les médecins, ils n'y connaissent rien en plantes.
Oui, mais ça encore, c'est pas très grave. Enfin, si, c'est grave. Ce serait mieux qu'ils puissent en parler, mais au moins, ils nous laissent en parler.
Oui, puisque la médecine, c'est quand même, le milieu médical.
Oui, mais il y a des médecins qui sont super quand même. Hein. Localement, il y a des médecins qui connaissent bien les plantes. Non, c'est les gros lobbies qui ont peur des tout petits comme nous et qui veulent nous écraser. Je comprends pas bien pourquoi, hein, parce que vu le chiffre d'affaires qu'ils font, ils ont pas vraiment besoin de nous squatter nous, enfin de nous empêcher de travailler. Mais c'est même dans des pays du tiers-monde, ils font ça, ils confisquent le savoir et après les gens localement, ils peuvent même plus utiliser leur propre plante. C'est inouï, je sais pas ce qui guide l'homme vers ça, quoi, cette éternelle soif de pouvoir et de destruction sur l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est minant. Mais heureusement, la plante, elle nous encourage à continuer à vivre avec elle.
Bon, on va peut-être faire une petite pause. Parler de la pensée sauvage, justement, hein, c'est le nom de ton association.
Ouais.
Mais justement, ces plantes sauvages, alors comment ça se passe? Tu m'as dit aussi dans les pays où tu as été, au Maroc, il y a des plantes sauvages.
Ouais.
Alors, quelle est la part de plantes sauvages, de plantes cultivées? Comment ça se passe?
Ça dépend un peu des pays, mais ici, en tout cas, au niveau biotope, on est pratiquement 80% de plantes sauvages.
Ah oui.
Pour 20% de cultivés, ouais. Oui, parce que le thym, le romarin, la sarriette, la lavande, le tilleul, le frêne, le bouleau, souvent le framboisier aussi, la myrtille. Voilà, c'est tout des plantes sauvages, les cynrodons, les glantiers. Et donc, oui, il y a certains thyms qu'on cultive parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'espace sauvage, parce qu'il y a de moins en moins de paysans. Il y a de plus en plus de gens qui convoitent ce type d'aromates. Et je mets toujours en garde par rapport à ça. C'est 80% de sauvages. Ouais.
En même temps, on a vu avec Tchernobyl, hein, comment les plantes sauvages, et notamment le thym, comme les champignons, accumulent la radioactivité. Donc comment tu peux être sûr, vous pouvez être sûr quand vous prenez des plantes sauvages, que finalement elle ne soit pas polluée.
Tu peux pas être sûr. D'ailleurs, on avait demandé à l'Office national, quand ça s'appelait encore l'ONUPAM, de faire une recherche par rapport à ça. Et ça n'a pas été fait. On avait fait à l'époque de Tchernobyl, c'était grâce aux biotopiens que tout ça s'était venu un peu à la surface, parce que c'était la famille Clessens, c'était le président de Biotop, qui était dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui avait vu que le thym contenait 3600 becquerels. Je crois que c'était ça. Et Monique avait demandé, mais qu'est-ce que je fais à la répression des fraudes? Ils ont dit, madame, vous faites en votre âme et conscience. Et en fait, ça fait partie des moments, parce qu'il y a eu plusieurs moments où on pensait tout arrêter. Et donc on a regardé les autres plantes. Il y avait le prime vert à l'époque, il y avait 33 000, donc on n'en a pas vendu. Il y avait l'aubépine qui en avait aussi beaucoup. Ici, le thym était à 1002, je crois. J'ai tous les chiffres. Et donc, ouais. Pendant un an, on n'a pas vendu de thym. On n'a pas vendu les plantes qui étaient trop atteintes. Et on n'a pas vraiment compris pourquoi certaines plantes en prenaient plus que d'autres. Et on a l'impression qu'elles confondent des molécules, en fait, les plantes. Et c'est selon le stade d'évolution. Parce que le prime vert, à l'époque, était en fleur. Et donc elle était plus sensible et elle avait peut-être plus besoin d'une molécule qu'elle... et elle a confondu le césium ou je ne sais pas ce que... Tu vois, les plantes n'ont pas compris.
Il y en a qui accumulent aussi par les racines. Hein, c'est comme le champignon, le thym, on peut imaginer.
Ouais, mais c'était quand même très aérien. Et puis, le tilleul, on avait aussi un peu. Oui, après, on ne peut pas, mais de toute façon, il ne faut pas rêver. Hein. On est tous... Tout est atteint partout. Je veux dire, on a le soufre de Barcelone, tout est atteint partout. C'est pour ça que c'est tellement important que tout le monde se mette en agriculture biologique et qu'il faut arrêter de polluer la planète. C'est la planète qui est polluée. Tout est pollué. Tout est pollué. Donc, nous, ce qu'on peut garantir, c'est notre façon de travailler. Mais on ne peut pas empêcher les nuages d'arriver. Tu sais, ici, dans les Cévennes, là, comme ça, quand il y a le vent du sud et qu'il pleut, les voitures sont couvertes de sable du Sahara. On a envoyé tous nos pesticides là-bas. Il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de tri dans l'air. Il n'y a pas de filtre. Donc, ça nous revient tranquillement en Europe. Et c'est ce qui montre bien qu'il faut arrêter les bêtises des grands BASF qui font des super pubs à la télé. Il faut qu'ils arrêtent quoi de nous polluer. Il faut arrêter les OGM, il faut revenir, il faut raison garder, et puis il faut arrêter cette course en avant qui est, on dirait des lemmings qui courent tous à la mer pour se suicider. C'est de la folie quoi. Donc on ne peut pas garantir des plantes 100% propres, il n'y a plus rien de 100% propre. On a beau avoir des toilettes sèches, phytoépuration, capteurs solaires, tu vois, toutes sortes, à air, à eau, électrique, c'est quand même, on est quand même pollué.
Parce qu'en fait, la radioactivité n'est jamais mesurée. Sur toutes les plantes, sur tout ce qu'on mange.
À l'époque de Tchernobyl, on avait beaucoup mesuré. Et puis, quelques années après, ça a effectivement baissé. Hein. Ça a baissé. On n'est plus du tout à ces taux-là. Il n'y a pas que ça. Il y a des polluants chimiques, il y a des pesticides. Parce que partout, c'est pollué. Mais même en Afrique, tu vas partout. Le pôle Nord, il paraît que c'est super pollué.
Mais les plantes, par exemple, qui sont pas bio, qu'on peut acheter n'importe où, celles-là, quand elles sont cultivées avec des pesticides.
Là, tu as une série. Mais alors, c'est ça qui nous a horripilé dès le début, parce qu'on avait demandé les fiches techniques de l'ITEPMAI. Qui à l'époque nous riait au nez parce que nous on voulait être en bio, mais il y a des traitements et des traitements. Je crois que le cynorhodon, il doit avoir une vingtaine de traitements. On se rend pas compte, mais la camomille, elle a des traitements. Alors imagine, tu cultives des plantes médicinales, ça veut dire que les plantes médicinales vont aller dans des corps qui sont malades, et tu ajoutes encore une sauce de pesticides, d'herbicides, c'est de conservateurs et de je sais pas quoi, mais tu peux pas guérir. Alors forcément, petit à petit, les plantes on n'y a plus cru. Mais quand on en a des vraies plantes, le plus propre possible, avec cultivées avec amour, ben, je t'assure, hein, ça fonctionne. Hein.
D'accord, mais pourquoi il faut tous ces produits Pourquoi eux, ils ont besoin de tous ces produits et pas vous?
Mais parce qu'ils ont des sols qui sont déjà très abîmés. Parce qu'à force de mettre des fertilisants, des herbicides et des pesticides, il y a pratiquement plus un ver de terre, donc il y a plus toute la microfaune et flore du sol, donc le sol est plus vivant. C'est comme un substrat. Quand t'as qu'un substrat, ben voilà, tu es obligé de mettre des choses pour que les plantes poussent quand même. Tu vois, nous, on fait pousser des engrais verts, on désherbe, mais pas plus que ça, quoi. Le sol, il reste vivant.
Désherbe à la main, tu veux dire.
Oui, on désherbe à la main, on sarcle, on met du mulch. Donc, ce sont des sols où tu regardes avec la fourche, tu as forcément des vers de terre qui montent, tu vois. Et c'est ça, les vers de terre, c'est l'intestin du sol. Quand tu enlèves l'intestin du sol, comment tu veux que ça soit digéré? C'est pas possible. Donc, ouais, on apporte du compost, on apporte du fumier composté, voilà, on met des purins d'ortie pour certains, et encore, moi, j'en quasi pas. Tu vois? Et puis, on accepte aussi d'avoir, pendant sur certaines productions, des pertes. Eh bien, tu arrêtes de cultiver ça, tu fais autre chose. C'est pour ça qu'on a beaucoup de producteurs et que chacun cultive une ribambelle de plantes. Parce qu'on n'est jamais complètement pris au dépourvu. S'il y a un problème ici sur la mélisse, ben, ils en auront peut-être différemment ou pas en Haute-Loire et pas en Corse. On a toujours de quoi se fournir, quoi.
Et alors, comment tu vois l'avenir?
Ça dépend des jours. Non, mais il faut que si on arrête la folie des législations et si on pouvait travailler en paix, ce serait le métier le plus beau du monde pour moi. Mais sinon, l'avenir, j'espère qu'on va lâcher un peu du lest sur les petites structures et accepter leur savoir-faire. Ça fait quand même 30 ans qu'on est là. Qu'on nous laisse à notre métier et pas à la paperasse, qui est quand même le grand, grand inconvénient européen, mais français surtout, quoi. J'ai l'impression que là, on nous submerge. Il faudrait presque un plein temps à Biotope pour s'occuper de la paperasserie. T'imagines? C'est très néfaste, quoi. Mais sinon, oui, l'avenir, ben je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à ça, à la plante, qui apprécient la plante, qui ont envie de l'utiliser et je pense qu'avec la crise, on va peut-être retrouver une forme de raison et que l'effet balancier va faire que on en aura un peu marre de courir tous pour on ne sait pas quoi. Et qu'on va arriver à peut-être plus communiquer entre nous, plus vivre les uns avec les autres à nouveau et sortir un peu de cet individualisme qui crée quand même beaucoup de solitude.
Bien, écoute, c'est une belle fin, ça. Je te remercie beaucoup.
De rien.
Voilà, coup de torchon se termine. Vous pouvez réécouter cette émission lundi à 17h30 et mercredi à 8h du matin et pendant 2 semaines sur radioescapades.org comme d'habitude. On se quitte avec Je me soigne de Zep. Et surtout, gardez la forme.
Cabinet du docteur Fanon.
Ouais, bonjour docteur, je vous appelle là pour prendre rendez-vous, là c'est assez urgent.
Qu'est-ce qui vous arrive?
J'ai des réactions toutes bizarres là, je crois que j'ai vraiment chopé un sale truc.
Un virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire?
Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux FDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux FDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Élevé au Banania, Tintin au Congo, à T.
dirait que c'est les Gaulois, tête ténègre et pépito. En petites vacances, coloniales à Djerba, aux petites blagounettes, assises de beau papa, toxiqué par TF1. J'ai appris à les haïr, à les craindre, à m'en méfier, ou même à les maudire. Ils sont la cause de mes problèmes, parce qu'on m'a dit xénophobie. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, dans la cour de récré, c'était les cowboys et les indiens, alliés au visage pâle, donc du côté des haïkins, exterminer les apaches, les sioux et les comanches, sans pitié, imposer la suprématie blanche et normale. C'est nous qu'on est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, la race supérieure, les civilisateurs, les démocrates, les visionnaires. Tout ça c'est écrit dans mes manuels scolaires, mais attention, je suis pas raciste, mon cœur est à gauche, généreux, humaniste, c'est pas du cinoche, et j'adore le Maroc, le Sénégal et Barbès. J'ai même adopté de petites négresses. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmans, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmans, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Attention gros, viril mais correct, pas une tarlouse. L'homme idéal est un vrai mec, un French lover, un tombeur, un prince charmant. Je sais, j'ai fait ma formation dans les rayons d'Auchan pour ma sœur. C'était les Barbie, les dinettes. Pour moi, les G.I. Joe, les pagnoles et le survêt. Elle, c'est la boniche, la cuisine et la coiffure. Et moi, le caïd avec mon flingue à la ceinture. Chacun son truc, son domaine de compétence. Je suis pas macho, tout ça c'est prouvé par la science. Nous, c'est la logique, la force et le charisme. Elle, c'est la tendresse, la douceur, le romantisme. Dans la pub, elle se sexy et maternelle. Et plus douée que nous, c'est sûr, pour laver la vaisselle. La nature est bien faite. Et toi chérie, où ce soir je te fais ta fête. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmans, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmans, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Être le meilleur dans la course à l'excellence, le mériter, pour avoir la récompense. Logiciel programmé depuis la petite enfance, compétiteur formé pour blackpooler la concurrence. À l'école on va dresser pour être le premier, écraser les autres et mépriser le dernier. Y'a pas de place pour les losers, les fainéants, les assistés, les faibles et les incompétents. Le pays des lumières a une image à défendre, un prestige, un honneur à prétendre. Et c'est pas avec des voleurs de poules, des clodos, des romano et des bougnoules qu'on pourra rivaliser avec les grosses puissances, imposer au monde toute la grandeur de la France. Alors soyons pragmatiques, le temps c'est de l'argent, et foutez-moi dehors toute cette bande de mendiants. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmans, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmans, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmans, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmans, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne.